Elle habite, elle était dans une institution, pas loin de chez nous. Et j'ai eu à cœur de contacter cette jeune fille. Dieu m'a parlé à travers cette lettre. J'étais touché, vraiment ému, comme je suis ce matin. Et je connais le directeur de cette institution où elle se trouve. Et je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que tu penses que, voilà ce que j'ai reçu de Léa, est-ce que je peux l'appeler, est-ce que je peux l'inviter à la réunion de prière que nous avons ce soir dans l'église qui se trouve juste dans le village à côté. Et il m'a donné le feu vert et il m'a expliqué qui était Léa. Léa, 32 ans, elle a passé tout son âge adulte, c'est-à-dire depuis 20 ans jusqu'à aujourd'hui, entre une institution, les urgences et l'hôpital psychiatrique. Elle s'est scarifiée pour la première fois à l'âge de 20 ans. Et ensuite, c'est devenu une addiction contre laquelle elle ne pouvait pas lutter. Donc, le temps que, parfois même pas le temps que les coupures qu'elle se faisait cicatrisent, elle retrouvait quelque chose pour se couper encore et encore et encore. Elle a été, me disait son directeur, des mois durant attachés sur un lit, les pieds et les mains attachés sur un lit. Et aux yeux de la médecine, c'est des cas qui sont classés irrécupérables, des pathologies diagnostiquées, schizophrène, borderline et tout le reste, irrécupérable. Et nous invitons... donc j'ai le feu vert de son directeur, je la contacte, est-ce que tu viendrais ce soir à la réunion de prière? Elle était toute heureuse, toute honorée qu'un grand chanteur d'1m80 s'intéresse à elle et l'invite à la réunion, et elle vient, et puis elle vit quelque chose, et depuis ça, elle rejoint notre groupe de prière, elle fait des bons, elle donne sa vie au Seigneur, elle commence de lire la Bible, elle est intéressée. Et puis, il y a trois semaines, un mois, elle me téléphone toute désolée, elle me dit, écoute, je suis en hôpital psychiatrique, je me suis de nouveau scarifié, c'est revenu. J'ai dit, alors... C'est quoi le problème? Je suis allé la voir et j'ai dit, ne te laisse pas accuser. C'est une chute sur ton parcours. Tu es un petit bébé spirituel. Un enfant, quand il se met à marcher, eh bien, il tombe, il s'écorche les genoux, il va vers les parents et les parents le prennent dans les bras et pensent la blessure. Et voilà, c'est... Et ne te laisse pas dominer par l'accusation. Et puis là, elle m'a confié, elle m'a dit, mais écoute, il y a quelque chose qui est peut-être la cause de ma rechute, c'est que j'ai gardé des photos de mes blessures. Et ces photos, c'est un peu mon identité, je les ai gardées, j'en ai une grosse pile. Et puis on parle ensemble, elle me dit, mais en fait, c'est... Lorsque je regarde ces photos, que le mécanisme se déclenche. C'est un mécanisme dans le cerveau. Elle me dit, au moment, ça se déclenche en une fraction de seconde. Et quand ça se déclenche, il n'y a plus aucune possibilité, ou alors il faut l'attacher. Il n'y a plus aucune possibilité de résister. C'est beaucoup trop fort. Il faut trouver quelque chose, casser une vitre, casser une tasse, quelque chose, trouver un couteau, un cutter, une lame de rasoir, n'importe quoi. Elle m'explique ça et j'ai dit, écoute, si tu es d'accord, ce serait bien qu'on brûle ces photos avec ton accord. On convient d'un moment, semaine suivante, elle nous amène ces photos, elle les brûle et puis on proclame sur elle, verset 2 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, 17 ou 2, je ne sais plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis voilà, elle était toute à la fois heureuse, mais un peu perturbée d'avoir brûlé ça. Et dans les 2-3 jours qui suivent, elle est interpellée, elle est tourmentée. Elle se dit, est-ce que j'ai bien fait? le menteur revient, le tentateur, et dire pour remettre le doute. Et puis là, on avait eu l'inspiration de dire, mais garde un souvenir de ces photos. On a trouvé une petite boîte, on a mis les cendres. Un peu de cendres dans cette petite boîte, et on lui a donné, on lui dit, tiens, ça c'est le souvenir de cette décision que tu as prise le 24 septembre, où tu as renoncé à ta vie passée. Elle avait cette boîte avec elle, et puis, alors qu'elle était, elle était tourmentée, elle a pris cette boîte, elle a eu l'inspiration de dire, je vais aller l'enterrer quelque part. Je vais l'enterrer. Et ce sera le signe que ma vie passée est morte et enterrée. Et ce matin, elle m'écrit ceci. Je voulais te donner un peu de mes nouvelles. Je n'ai plus eu aucune envie de me faire du mal depuis le 24 septembre. La date qui restera gravée dans ma tête, c'est le jour où j'ai brûlé ces photos, quand je suis devenu une nouvelle création. J'ai quand même rêvé une nuit que je m'étais coupée, et j'étais tellement contente le lendemain que ce ne soit pas vrai. Sinon, c'est décidé, je veux passer par le baptême. La prochaine fois que je vais à l'église, je m'approche de l'un des pasteurs pour le lui demander. Je veux être une nouvelle création dans tous les domaines de ma vie. Je rentre mardi, je vais essayer de venir au groupe de maison. Je suis tellement contente de vous avoir rencontré, toi et ta magnifique famille. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me rend heureuse quand vous me dites que j'en fais partie. Je remercie souvent le Seigneur pour tout cela. Merci d'exister. Ça me touche tellement. Parce que cette fille, elle était perdue. Elle était perdue. Aucune possibilité. Aucune issue. On pouvait juste la bourrer de médicaments et la transformer en zombie. Il n'y avait aucune possibilité. Médicalement, scientifiquement rien. Classé irrécupérable. Et le Dieu des miracles a agi. Le Dieu des miracles a agi. C'est ce Dieu que l'on sert, mes amis. Et ce Dieu-là, si il a pu nous utiliser comme des instruments dans sa main pour ramener cette jeune femme à la vie, c'est parce que nous mettons en pratique dans notre quotidien le message que je vais vous partager ce matin. Et ce que j'avais à cœur de vous dire avant de rentrer dans ce message, c'est que, vous savez, dans l'Église, la plupart d'entre nous, je pense, nous avons un arrière-plan catholique. Si c'est protestant, c'est pas très différent, mais il y a quand même cette notion d'Église où qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas, il y a le pasteur qui est devant, qui est un ministère, qui est payé, il a un salaire, un gros salaire, pas si gros que ça, mais il a un salaire et on attend du pasteur qu'on puisse le déranger, qu'il puisse prier pour nous, que lui, c'est son job, il est payé pour ça, il va étudier la parole de Dieu, il va, quand c'est quelqu'un comme Bernard qui tout à coup a une parole de connaissance, Dieu va lui parler, et puis nous, on va être là, on va être gentil de venir participer au culte le dimanche, et voilà. Et l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est pas ça. Ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas cela. C'est un corps où tous les membres peuvent non pas suer, travailler, se mortifier avec le pasteur, mais où les membres peuvent peuvent travailler ensemble pour grandir ensemble, pour se fortifier ensemble, pour devenir ensemble cette armée qui conquiert du terrain, qui va piller l'enfer pour peupler le ciel et qui va jouir de ces bénédictions extraordinaires quand tu peux arracher des gens à la mort, quand tu peux arracher des gens à la souffrance, à des situations qui sont sans issue. Ça, c'est une bénédiction pour nous, parce que quand tu donnes, c'est alors que tu reçois. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi qui essaie de nous détourner de la parole de Dieu, de nous écarter des bénédictions du Seigneur qui sont dans la parole de Dieu, et de nous faire oublier que lorsque tu donnes, tu reçois. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit Matthieu 6, 33, et toutes choses vous seront données en plus. Et je voulais vous encourager, aujourd'hui, c'est pour vous en être dans votre vie personnelle avec Dieu, bien évidemment, mais pour nous, avec Jocelyne, nous avons été pendant plusieurs années, on avait des bénédictions à travers ce que l'on fait. On diffuse des CD et les gens nous disent, ici en Suisse, en France, en Afrique même, les gens nous disent, on a été bénis, on a été guéris, on s'est convertis, on est revenu au Seigneur, notre couple a été sauvé par rapport à un de vos CD. Mais dans notre région, notre groupe de maisons, c'était le calme plat. On voyait des choses ailleurs. Et on n'en voyait pas chez nous. Alors, on se consolait parfois avec la parole de Jésus qui disait que nul n'est prophète en son pays. Mais on disait, Seigneur, notre pays, tu nous l'as donné. Nous avons un cœur. Notre pays, notre région, nous avons un cœur. On aimerait voir des choses dans notre région. On aimerait voir aussi. Et puis, depuis 2 ans maintenant, on est dans un temps de récolte. On voit le miraculeux, le surnaturel, quasi hebdomadairement, quasi chaque semaine. Je vous ai parlé de Léa, il y en a d'autres dans le groupe de maison, d'autres personnes, une vingtaine maintenant, avec plusieurs cas sans issue, il y a quelques semaines encore, et qui, aujourd'hui, retrouvent le goût à la vie. Je pourrais vous raconter encore plusieurs témoignages, on va s'arrêter là, mais c'est pour vous dire que c'est pour vous rendre attentif à ce message. Écoutons ce message et mettons-le en pratique pour vivre des choses qui sont tellement extraordinaires qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté. La base de notre réflexion aujourd'hui, c'est la parabole des deux maisons que Jésus donne dans l'évangile. Dans Luc, ou j'ai plus le verset. C'est le verset 47, mais voilà. Luc 6, je crois. Luc 6. Mais la parabole des deux maisons. La plupart d'entre nous connaissent, pour ceux qui connaissent moins, Jésus parle de deux maisons identiques en apparence, mais différentes quand même. Et la différence ne se voit pas. La différence réside dans l'invisible, dans ce qui est caché et qui est le fondement. Deux maisons qui ont été construites, l'une sur la terre, posée juste sur la terre comme ça, sans fondement, et l'autre a été construite sur le roc, bâtie sur le roc. Identique, mais un jour, l'invisible va se révéler lorsque la tempête vient, lorsque les torrents se jettent contre les deux maisons. L'une va rester debout, celle qui est accrochée, fondée sur le roc, et l'autre, eh bien, elle va s'écrouler. Est-ce que vous savez Quelles sont les trois conditions pour fonder sa maison sur le roc? Ce qui est intéressant, c'est que dans ces trois conditions, les deux premières concernent aussi la maison qui a été bâtie sur le sable. Donc, deux conditions identiques, mais celle qui fait la différence, c'est la troisième. Est-ce que vous connaissez cela? C'est pas évident, hein, si vous... Moi, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça, ça m'a impacté. Jésus dit dans le verset 47, c'est Luc 4, hein, je crois, Luc 6. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et là, c'est la maison sur le roc. Et celui qui l'a bâti sur le sable, c'est quelqu'un qui vient à moi, dit Jésus, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Ça, c'est sur le sable. Et ça devrait nous interpeller, mes amis. Parce qu'on touche là à quelque chose d'essentiel. Parce que nous sommes, toutes et tous, des gens qui remplissent les deux conditions. On vient à l'Église, on entend les paroles de Christ. Est-ce qu'on les met en pratique? Et à voir comme ça, à part le pasteur et son épouse qui connaissent, je pense, certains d'entre vous, à voir vos maisons, je ne peux pas dire, personne ne peut dire si elles sont bâties sur le sable ou sur le roc. Ce sont de belles maisons. Mais il n'y a que l'épreuve qui va montrer, révéler le fondement. Et l'épreuve, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Soit elle est passée déjà, soit elle est présente, soit si on se dit ça ne me concerne pas, la mauvaise nouvelle c'est que l'épreuve est devant vous. Chacune et chacun passons à un moment ou à un autre par l'épreuve. Donc ce qui est important, c'est cette notion de mettre en pratique la parole de Dieu. De mettre en pratique. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de savoir comment. Comment mettre en pratique, comment pratiquer cette mise en pratique. Et si vous passez au verset 46, juste avant, c'est intéressant. Parce que Jésus dit, avant de lancer cette parabole-là, il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Intéressant ça, non? Jésus l'aurait pu le dire autrement. Pourquoi me dites-vous ce que je dois faire et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi me dites-vous ce que... Souvent dans les prières, c'est Seigneur, Seigneur, fais ci, fais ça, Seigneur. Comme si un peu, parfois, on entend certaines prières, parfois, comme si... Alors? Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça. Pourquoi me dites-vous ce que je dois faire et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Parce que tout est dans la parole de Dieu. Alors, rapidement, la différence entre les deux maisons, la construction sur le roc prend plus de temps. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Celui qui veut aller vite, eh ben, il commence de mettre les murs, clac. Et puis, on a expérimenté dans le couple avec Jocelyne avant d'être converti. On a construit notre couple comme si on mettait des briques comme ça. Et puis, il n'y a pas eu besoin de l'épreuve pour révéler que c'était château branlant ce que l'on avait fait. Et quand on s'est converti, on se connaissait depuis 6 ans. Le château s'est écroulé, on a commencé de creuser. Et c'était pas une période très, très facile. Il a fallu creuser. Pff, oh là là. À un moment donné, on se disait, avant le mariage, là, est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que c'est... Est-ce que... Il y a plein de questions. Et on a fini par creuser. Et le mariage, ça a été symboliquement la pose de la première pierre. Et aujourd'hui, 33 ans après, on est amoureux comme des fous, on est heureux, on bénit le Seigneur. Parce que notre maison a tenu jusque-là et elle tiendra. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Les tempêtes peuvent venir, elle tiendra. Parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu. Dieu nous interpelle tout au long des Écritures quant à l'importance de demeurer dans sa parole. Dans Jean 15, les 14 ou 15 premiers versets, il y a 13 fois le mot « demeurer ». Jean 15 parle du cep et des sarments. Si vous demeurez en moi, vous êtes les sarments, je suis le cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Si vous ne demeurez pas en moi, le sarment qui ne demeure pas en moi, on le coupe, il sèche, il brûle. Demeurez en moi, si vous demeurez en moi, alors demeurez en moi. Quand vous lisez les 7 premiers versets, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, les 7 premiers versets, demeurez en moi. Versets 5 et 6. Demeure en moi, je demeurerai en vous. Ok, c'est beau. Je demeure en toi, Seigneur. Amen, je demeure en toi. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Je demeure en toi. Je demeure en... Mais au fait, c'est quoi demeurer? Demeurer en toi, c'est quelle position? Fœtale, debout, assis, couché, c'est quoi? Et le verset 7 nous donne la clé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles, Jésus, la parole, le Verbe, la parole. Jean 8, 31-32, Jésus précise encore cela. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Jésus, la vérité, en opposition à Satan, le père du mensonge, le menteur. Jésus, la vérité qui libère en opposition à Satan, le mensonge qui asservit. Qui nous garde dans l'esclavage. Il y a un combat, ce combat de la foi dont parle Paul quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, ce bon combat. » Voilà le champ de bataille de ce combat. Nos pensées, c'est le champ de bataille. Jacques 1, 22 nous dit ceci, « Mettez en pratique la parole. » De nouveau, cette question de mise en pratique. « Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements qui sont inspirés par la même voix qui, dans le jardin d'Éden, a dit à Adam et Ève,
« Dieu a-t-il réellement dit ?»
Que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. Et le verset 25 de Jacques 1, m'a sauté aux yeux, ça fait pas si longtemps que ça. Jacques dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Ça m'a impacté cela. La loi de la liberté. Quand on parle de loi, c'est la même famille que légalisme, c'est la même famille que la loi dans certaines églises, c'est la loi. La loi. Mais l'évangile, c'est la loi parfaite, la loi de la liberté qui vient te libérer de tes prisons intérieures. Il y a quelque chose d'extraordinaire à trouver. Libéré du mensonge, libéré de la honte, libéré de l'accusation. On en parlera tout à l'heure. tellement important, la loi parfaite, la loi de la liberté. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Heureux dans son activité. On retrouve le mot heureux, la mise en pratique de la parole de Dieu, l'alignement de ma vie, de mes pensées, de mes actions, de mes paroles à la parole de Dieu amène dans ma vie le bonheur, mes amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas là pour subir, pour vivre une vie chrétienne écrasée, où on se dit, ah, vivement, Seigneur, viens me prendre. Oh, viens me prendre, Seigneur. Viens me prendre afin que je puisse connaître la félicité éternelle après avoir souffert, après avoir porté ma croix. Tous les jours de ma vie, péniblement. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. Mais ça veut dire que dans les épreuves, notre maison tiendra debout. On peut connaître l'épreuve et rester dans la joie du Seigneur. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. On est rayonnant de joie. Même au sein de l'épreuve, nous avons connu une épreuve douloureuse avec avec notre fils aîné qui a. Je ne peux pas trop détailler, il n'y a pas de secret, mais on n'a pas le temps. Il est arrivé depuis l'âge de ses 20 ans, il souffrait de solitude, il désirait se marier. Et voulait, à 15 ans, il voulait déjà se marier à 20 ans, et à 20 ans, il n'était pas marié. Les mois, les années se sont s'écoulaient et son désespoir est devenu du désespoir de chez désespoir et de déprimé, il est devenu dépressif et on rentrait d'une mission comme celle-ci, on quand on arrivait à la maison, on se disait comment est-ce qu'il va être et on entendait hurler son désespoir, hurler j'en peux plus. Ma vie, c'est... Pardonnez-moi, je vous le fais en version originale. Ma vie, c'est de la merde. J'en peux plus. Il est où, Dieu? Il est où? Tu fermais les fenêtres et tu disais, même avec les fenêtres fermées, bien isolées, s'il y a des gens qui passent dans la rue, ils vont se dire, ah là 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 là. Ah là là là. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Et c'était continuellement. Et à un moment, on ne savait plus. Notre fils a passé chez tous les ministères. Tu es allé chez Sam, chez Papa Jean, chez Délivrance et tout ça. Rien n'y faisait. Et à un moment, on donnait tous les bons conseils. Des bons conseils, des vrais bons conseils. Mais le meilleur conseil mettait de l'huile sur le feu et ça partait en cacahuète. Et à un moment... Dieu nous a révélé un verset. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Ah ben, elle est belle cette promesse. Sauf que c'est exactement l'opposé de ce que l'on vit. Et ce que nous avons compris, c'est que parce que c'est l'opposé de ce que tu vis. Alors proclame-la. Proclame-la. Accroche-toi à cela. C'est la vérité opposée à ta réalité. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et la foi, c'est ça. La foi, c'est ça. La foi, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est cela. C'est de s'accrocher à la vérité en sachant très bien qu'elle est à l'opposé de ta réalité. Mais tu t'y accroches. Et à partir du moment, il nous a fallu trop longtemps pour comprendre ça, mon Dieu, trop longtemps pour comprendre ça. Mais à partir du moment où nous avons compris ça, c'était l'année dernière, quand notre fils venait, on donnait plus de conseils. Notre fils venait, l'année dernière, 30 ans, il venait parfois dans mon bureau, « Papa, prie pour moi, j'en peux plus. » On peut plus, je vais me foutre en l'air. Et si ça va pas, je vais me faire hospitaliser parce que j'ai peur de moi. Je vais me foutre en l'air. je prenais dans mes bras et je disais, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Et il pleurait davantage et je priais encore une fois et encore une fois. Béni soit l'Éternel car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je le loue par mes chants. C'est ta vérité, Seigneur. Je la proclame sur mon fils. Je la saisis. Je l'arrache dans la gueule du diable. Je proclame ta vérité. Ça, c'était la mise en pratique de la parole de Dieu. Pourquoi j'ai enfin pu comprendre ça? Parce que quelques années auparavant, j'ai été guéri, délivré du bégaiement qui m'a tenu captif 46 ans. 46 années. J'étais captif d'un problème de bégaiement. On a prié pour moi, là aussi, des ministères et tout ça. Rien n'y a jamais fait. Pourtant, on a vu des miracles mille fois plus importants que cela, mille fois plus sensationnels. Mais rien n'y a fait. Et à un moment, je me suis appuyé, accroché à Marc 11, 24. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À ce moment-là, j'ai écrit certaines promesses de la parole qui étaient exactement à l'opposé de ce que je vivais. Juste à de l'assurance comme un jeune lion, je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, etc. Il y en avait une vingtaine, j'ai appris ça par cœur et j'ai proclamé autant de fois que je pouvais, chaque fois que j'avais un moment de libre dans ma tête, je proclamais cela, je le disais à haute voix, à voix basse, etc. Et ces promesses-là, sur une période assez longue, plusieurs mois jusqu'à zéro problème de bégaiement. Vous remarquez aujourd'hui que j'ai plutôt la parole facile. Ça n'a pas toujours été le cas. Ces promesses-là m'ont permis de vivre la guérison après 46 ans de bégaiement. Et je dis aujourd'hui, je ne dis pas Dieu m'a guéri, ou Jésus, ou la prière, je dis la parole de Dieu. La parole, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et mes amis, jusqu'à aujourd'hui, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, le combat que Satan mène dans chacune de vos vies, c'est de vous écarter de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éloigne du péché. Le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Dans tous les domaines, ça fonctionne comme ça. Parce que qu'est-ce que le péché, finalement? Qu'est-ce que le péché? Manquer la cible. Alors c'est une question à réponse multiple. Mais j'ai entendu un mot là. Désobéissance à quoi? À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand j'ai compris cela, je me suis dit, mais moi qui me dis, je dis au Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je disais ça pour faire bien. Mais qu'est-ce que je pêche? Où est-ce que je pêche, Seigneur? Ben, quand je désobéis à la parole de Dieu. À un moment, dans la situation de notre fils, j'ai relu Philippiens 4, 6, 7 différemment. Philippiens 4, 6, 7, c'est « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. » Quand tu lis ça, et que tu es dans une situation, tu as envie de dire « Seigneur, t'en as de bonnes. » Mais un jour, le Seigneur m'a montré ça comme un commandement. Il m'a dit, oh, c'est fini maintenant. Ne t'inquiète plus. Et j'ai compris que le fait de m'inquiéter, parce qu'il y a mille, il y Il y a 15 000 pensées chaque jour qui te disent, mais qu'est-ce qui va devenir ton fils? Il est devenu dépressif, et le Seigneur te montre dans le voisinage, on a un petit quartier de 9 maisons, il y a 7 vieux garçons, il y avait 7 vieux garçons sur 9 maisons, et tu te dis, c'est un truc de voisinage, il y a sûrement une malédiction, alors tu commences à prier, tu vas dans tous les sens. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Stop. C'est plus un bon conseil que tu ne peux pas suivre, c'est un commandement. Ne t'inquiète pas. Mais comment je fais? Comment je fais pour ne pas m'inquiéter alors que j'ai 15 000 pensées d'inquiétude par jour? Vous savez comment? Je proclame ce verset-là. Je dis, Seigneur, je ne m'inquiète pas. Je réponds à ce commandement en le proclamant avec une décision. Seigneur, je ne m'inquiète pas. Même si au fond de moi, j'ai des pensées qui disent ça ne fonctionne pas ton truc. Ça ne fonctionne pas parce que tes 15 000 pensées, il y en a peut-être plus que 14 500, mais elles sont encore bien là. Et tu le proclames. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. En toute chose, je te fais connaître mon besoin, je te fais connaître le besoin de mon garçon. Et tu me donnes ta paix, tu me donnes ta paix. Merci pour la paix que tu me donnes. Et l'ennemi dit, elle est belle ta paix. Oh, elle est belle. T'as progressé, c'est vrai. Mais il t'en reste encore 14 000 de pensées négatives là. Et toi, tu t'accroches à la parole de Dieu. Toi, tu t'accroches. Tu t'accroches. Béni soit l'Éternel, car exauce à voix de mes supplications. Tu t'accroches. Et comme ça s'est passé dans mon histoire de bégaiement, alors l'histoire de bégaiement, ça a été progressif. C'était un truc de fou. Je raconte ça dans mon dernier bouquin, si vous voulez avoir tous les détails. C'est trop long d'en parler comme ça. Mais notre fils est arrivé à 30 ans. Alors que mon épouse avait prié, supplié le Seigneur, Seigneur, pour ses 30 ans. Lui, il voulait déjà pour ses 20 ans, Seigneur. Tu as perdu 10 ans. S'il te plaît, donne-lui quelqu'un. Les 30 ans arrivent, et quelques jours avant, il nous dit, j'ai rencontré quelqu'un par Internet. Oh là là. Mon Dieu. Et je ne peux pas vous raconter tout ça dans le détail, peut-être. Si. Enfin, c'est une Brésilienne qui vit à Londres. Ah. Voilà. Alors, il faut savoir que notre fils parle parfaitement le portugais brésilien parce qu'il a été au Brésil il y a quelques années en mission, quelques mois. Donc, voilà, ça pouvait déjà coller. Et le truc, c'est que notre fils connaissait dans la ville à côté une dame brésilienne qui avait une fille qui était à Londres. Cette fille connaissait une copine qui connaissait une copine qui était célibataire et qui cherchait désespérément l'homme de sa vie. Et puis par copine de copine interposée, les deux se rencontrent. Et cette jeune femme est arrivée chez nous le 24 décembre de l'année dernière. Ça a été mon plus beau cadeau de Noël. Cette jeune femme, ils se sont mariés le 16 février. Les gens disaient, oh là là, oh là là, oh que c'est rapide ça, oh là mon Dieu. Et les gens venaient, on vous invite au mariage de notre fils. Ah bon? Mais il n'est plus... Non, il se marie le 16 février. Ah, le 16 février. Et vous la connaissez depuis quand? Depuis le 24 décembre. Ah, mon Dieu. C'est une jurassienne? Non, une brésilienne. Ah, mon Dieu. Il y a certaines personnes qui ont observé, qui ont dit, personne n'a pas versé une larme à ce mariage. Personne n'a pas versé une larme à ce mariage. Il y avait quelque chose de tellement touchant. Et ça m'arrive encore aujourd'hui avec notre belle-fille, quand elle arrive, quand on va rentrer là, Elle va venir nous prendre dans les bras, puis elle va dire, « Oh, j'ai trop l'ennui de vous, j'ai trop l'ennui de toi, beau papa. » Et moi, j'y tâte les bras, je dis, « Mais est-ce que tu es vraiment vrai ?» Cette fille, depuis 8 mois, elle a été, mais c'est une merveille, on se demande de quelle planète. Alors j'ai dit à mon fils, c'est pas étonnant que t'aies mis 10 ans pour la trouver, celle-là. On comprend mieux maintenant. Accroché à la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que de comprendre à quel point la parole de Dieu est importante, à quel point jusqu'à aujourd'hui, dans nos vies, l'ennemi fera tout pour nous détourner de la parole de Dieu. Et parfois, il va même utiliser la Bible. Je n'ai pas dit la parole de Dieu. J'ai dit la Bible. Comme il l'a fait avec Jésus. Il a utilisé la Bible pour tenter Jésus. Autrement dit, on peut comprendre des choses différemment. Combien de gens, même dans le peuple de Dieu, vivent sous l'accusation. Je n'ai pas le temps de vous raconter cette histoire. Elle est incroyable. On l'a vécu cette année avec une femme de notre assemblée qui a 70 ans à peu près, qui est une femme intègre, qui aime Dieu, qui prie, qui s'engage, qui donne, qui a... C'est à l'image de quelques-unes d'entre vous, c'est vraiment de ces femmes magnifiques. À un moment, sa fille a un grave accident de voiture, très très grave. Et cette femme, quand elle reçoit le diagnostic, les genoux en compote, tout ça, la rotule en 1000 morceaux, ligaments arrachés, enfin un truc complètement effrayant, un diagnostic long comme un jour sans pain. Et cette femme, elle dit, ma fille ne marchera plus jamais. La fille ne marchera plus jamais. Et les médecins ont dit, on va essayer de sauver ses jambes, on ne va pas amputer, on va essayer de sauver. Et si ça fonctionne bien, d'ici 2 ans, elle pourra se remettre debout. Et 5 mois après, cette fille est debout. Et dans le même temps, la maman contracte une maladie très grave, qui atteint la colonne vertébrale, qui a une ramification dans les yeux, elle faillit perdre un œil. Et c'est extrêmement douloureux, elle est bourrée de cortisone. Et puis, à un moment, on prie pour elle dans une réunion. Et puis, le dimanche suivant, le pasteur demande si elle va mieux. Elle dit non, depuis que vous avez prié, ça s'est empiré encore, merci. Alors, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on... Et puis là, elle dit, mais les médecins m'ont dit que cette maladie est la suite d'un choc émotionnel. Alors, elle a tout de suite identifié le choc émotionnel, bien évidemment. Mais quand elle me dit ça, quelque chose en moi, ou quelqu'un plutôt, qui pouvait être le Saint-Esprit, me dit, mais c'était quoi ce choc émotionnel? Je lui demande, et tout le monde pensait que c'était l'accident de sa fille. Je vous le donne en 1000, le choc émotionnel, c'était le jour, l'instant où 5 mois après, elle a vu sa fille debout. C'était ça le choc émotionnel. Et vous savez pourquoi? Parce que instantanément, un doigt accusateur s'est pointé sur elle en disant, tu n'as même pas eu la foi. Tu n'as même pas eu la foi. Elle s'est sentie accusé en disant, mais qui suis-je? Mais qu'ai-je fait? Je n'ai même pas eu la foi. Je suis misérable. Et pourtant, je connais le Seigneur. Et pourtant, je prie. Tu n'as même pas eu la foi. Et elle me révèle à ce moment-là, elle me dit, toutes les nuits, je demande pardon à Dieu. Pardon, pardonne-moi, Seigneur. Je dis, c'est quoi ta faute? Mais, j'ai pas eu la foi. Et alors? Est-ce que ça a eu une incidence sur les progrès de ta fille qui devait mettre 2 ans pour se remettre debout? Elle a mis 5 mois. Aucune incidence. Et pourtant, l'accusateur réussit, comme s'il dit, j'ai pas gagné sur ta fille, mais je vais me rattraper sur toi.
Et c'est cette accusation qu'elle a validée, sans comprendre, sans se souvenir que l'accusation vient de l'accusateur, et dans la parole de Dieu, l'accusateur, il y a un A majuscule. L'accusateur. Et cet accusateur vient. Et quand ça a été discerné, on a prié pour elle. Et à la fin de la prière, elle a demandé pardon au Seigneur. J'ai dit une fois, d'accord, hein, une fois, après c'est bon. Et puis, à la fin de la prière, elle dit à son mari, j'ai retrouvé l'équilibre. C'est incroyable, j'ai retrouvé l'équilibre. Alors, elle n'a pas été guérie du reste, parce qu'il y a des doses de cortisone de cheval. Elle baisse ce traitement maintenant et la guérison est progressive. Mais l'accusation a produit cette maladie chez elle. Et ça, c'est, mes amis, j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse, la différence entre l'accusation et la conviction de péché. L'accusation, elle vient toujours de l'ennemi. Dieu ne se sert jamais de l'accusation. Est-ce que vous êtes conscient de ça? L'accusation, c'est un doigt accusateur. On parle de l'index accusateur qui t'écrase. Il n'y a aucune porte de sortie. Ça t'écrase. Ça te dit tout ce que tu es, tout ce que tu n'es pas, tout ce que tu fais, tout ce que tu ne réussis pas. Et tu as encore fait ça. Et tu es au Seigneur. Et tu viens au culte. Et tu fais des belles prières. Et tu es encore comme ça. Et tu as encore un problème de fumée. Et tu as encore un problème avec ton ordinateur et ta souris galopante. Et tu as encore ci et ça. Et tu as encore ça. Ça, c'est l'accusation. Qui réussit même, dans le cas de cette sœur, à inventer un péché qui n'a jamais existé. Dieu fonctionne autrement. Ce n'est pas un doigt qui tend vers toi. C'est une main. C'est une main. Et c'est une main percée. C'est la main de Jésus qui vient jusqu'à toi, qui s'abaisse. Ne te regarde pas de haut pour dire « Regarde où tu en es !» Elle vient jusqu'à toi. Elle s'abaisse jusqu'à toi. Elle vient te chercher dans tes pire travers, dans tes pires pensées, dans les pires choses. C'est une main tendue. Cette main, elle attend simplement que tu la saisisses. Elle attend. Elle te saisira pas de force. Elle attend que tu la saisisses. Et quand tu la saisis, elle te relève. À l'image du fils perdu. Sans une remarque, sans une accusation. Sans rien. Juste avec la joie. La joie du Père qui accueille son Fils qui était perdu. L'ennemi accuse, Dieu accueille. Qui accueille en disant, mon Fils qui était perdu est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Ça, c'est la conviction de péché, mes amis. Quand tu comprends cela, ça change de perspective. Les gens disent, mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Moi, je trouve trop facile. Et les gens disent, mais c'est gratuit. C'est gratuit pour toi. Mais ça n'a pas été gratuit pour Jésus. C'est le prix fort. Et quand tu comprends cela, tu vois Jésus, tu vois la vie chrétienne d'une autre façon. Tu dis, Seigneur, tu es mort pour moi. Tu es mort. Tu comprends le sacrifice, tu comprends un peu, un tout petit peu, le sacrifice de Jésus à la croix. Le sang du Christ versé jusqu'à la dernière goutte pour toi, pour ce péché dans lequel tu es encore et encore retombé. Tu comprends cela. Et après, c'est plus par crainte, c'est par peur de perdre ton salut, je sais pas quoi, c'est par honneur. C'est par honneur. Tu dis pas, par honneur pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Alors je vais m'accrocher à ta parole par honneur. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Je veux faire tous mes efforts. Non pas pour mériter, je mérite rien. Tous mes efforts pour honorer et pour me montrer digne du prix que tu as payé pour moi. Et ça, c'est la différence, mes amis. Ça, c'est la différence. C'est extraordinaire. Alors, comment on le fait? Comment on le fait? En s'accrochant à la parole de Dieu. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Vous avez un problème d'addiction. on va dire, le tabac. Des gens viennent vers moi parfois et me disent, frère, prie pour moi, prie pour moi. J'aime le Seigneur, je lui ai donné ma vie, toute ma vie. Je prie, je jeûne, j'ai tout fait. Je veux le servir. Mais depuis le moment jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas me délier de cette addiction. Et pourtant, je prie. J'ai dit, mon frère, ma soeur, méfie-toi, parce qu'il y a beaucoup de chances, beaucoup de risques que tu sois focalisé sur ton problème. Et tu dis, Seigneur, oh, je fume encore, oh mon Dieu, délivre-moi, pardonne-moi, Seigneur, de ce... Et je dis aux gens, des fois, méfiez-vous des prières auxquelles l'ennemi peut dire Amen. Ah, oh, Seigneur, tu vois, je suis un malheureux, je fume, j'arrive pas à me détacher de cette cigarette, Seigneur. Seigneur, cette cigarette qui me pollue, qui détruit ton temple. Et l'ennemi derrière, Amen. Et qu'est-ce que tu fais quand tu pries comme ça? Tu nourris ton problème. Tu l'engraisses. Et je dis, mais, ton problème est là. Centre-toi sur la solution. Commence de remercier le Seigneur. Ça va être difficile parce que tes pensées, elles vont dire, oh là là, calme-toi, tu nous fais quoi là? Oh là là, tu ne serais pas un peu hypocrite par hasard? Tu ne serais pas un peu hypocrite? Et toi, tu vas dire, Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui délivre. À la croix, tu as vaincu mon addiction, tu as vaincu, tu me donnes la force, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, je suis plus que vainqueur, le Dieu de victoire habite en moi. Et tu peux prendre, si tu n'as pas beaucoup de mémoire, tu peux prendre 2-3 versets, apprends-les par cœur, prononce-les, chaque fois, proclame-les, et même si tu fumes, et alors, ok, c'est pas grave, je proclame, et peu à peu, en te centrant sur la solution, ton problème va diminuer. Les plus anciens parmi nous connaissent ce chant vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Et c'est ça, mes amis. Ça, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce que je vous raconte ce matin, quand j'y pense, je me dis, mais c'est trop simple. Comment c'est trop simple et comment on arrive à passer à côté? L'ennemi fera tout pour vous détourner de la parole de Dieu. Moi, j'ai eu, je t'avoue ça, pasteur, tu me donneras ton absolution. Mais pendant des années, je lisais la Bible. Parce que quand on a un ministère, quand on est évangéliste, c'est bien de lire la Bible quand même. Mais quand je lisais le psaume 1, heureux celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Non, objectivement non, je ne trouve pas mon plaisir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il m'arrive... Tiens, cette semaine, depuis 10 jours, j'ai pas ouvert ma Bible. Mais la parole de Dieu, elle est là. Je me couche, je m'endors, je me réveille pour faire pipi. La parole de Dieu est là et je la proclame. J'ai pas besoin d'ouvrir la Bible. Alors, des fois, c'est bien de l'ouvrir quand même. Mais ce qui est important, c'est que la parole de Dieu soit dans nos pensées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et de gagner le combat dans nos pensées. Et ensuite, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, commence de proclamer ce que Jésus a fait pour toi et ce qu'il va faire à travers toi pour les autres. On a entendu ce témoignage de ces papy-mamies qui ont 84 et 95 ans. Il y a des mamies par là, des papys aussi. Commence de proclamer que l'inverse de ce que tes pensées te disent, place au jeûne, repose-toi, laisse faire les jeûnes, tu vas ton temps est arrivé. Non! Non, jusqu'à mon dernier souffle, je serai un combattant, jusqu'à mon dernier souffle. Quand je serai sur mon lit de mort, il y aura la petite infirmière, je vais la gagner pour le Seigneur, parce que Seigneur, merci, tu fais de moi un combattant, tu me donnes ton amour, ta passion, merci parce que tu es avec moi, parce que l'Esprit de Christ habite en moi, et tu commences de proclamer la parole de Dieu, tu commences de proclamer, de saisir ce que tu ne vois pas encore. Tu ne le vois pas encore, mais tu le saisis par la foi. Tu le saisis par la foi. Tu le proclames, tu le proclames, tu le proclames. On est déjà tard. Mais je n'ai pas eu le temps de passer dans l'Ancien Testament. Il y a tellement de paroles dans l'Ancien Testament qui nous ramènent à cela. Lévitique 26, si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, après vous avez
une demi-page, il n'y a plus de pile, une demi-page de promesses. J'ai juste relevé quelques mots: prospérité, succès, abondance, sécurité, paix, protection, victoire, multiplication.
Ça va aller ?
Dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ésaïe 48:18, écoutez ça, mes amis. Juste ce verset-là. Oh, Jésus dit, oh mon peuple, si tu étais attentif à ma parole, à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Parle pas, si tu étais attentif à un commandement, tu seras sauvé un jour. Non, aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on se laisse polluer par le mensonge, on cherche notre bonheur, on cherche notre intérêt, on cherche partout, ici ou là, pour être heureux, pour combattre les finances, la santé, ceci ou ça. Et la parole de Dieu dit non. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ta prospérité, ta vie, ton bonheur sur cette terre dépend de ta relation avec la parole de Dieu. Mes amis, si nous passons à côté de cela, nous sommes fous. Nous sommes fous. Nous sommes comme ce fou qui a construit sa maison sur le sable. Vous me direz, si, je ne sais pas si vous êtes content d'être un fou qui sera sauvé. Vous me dites, bah, si je suis sauvé, au moins ça. Mais non. Moi je veux être un sage qui. Je me pose jamais la question, est-ce que je peux perdre mon salut? Il y a des gens qui en font un problème là, des doctrines, des querelles de doctrine. On peut le perdre, on peut pas le perdre quand on l'a pour toujours. Mais on n'en a rien à faire. Mais obéis à la parole de Dieu. Puis tout ça devient secondaire. Parce que si tu obéis à la parole de Dieu, eh bien tu vis ta vie, tu accomplis ta mission. Et quand tu accomplis ta mission, tu te sauves toi-même, tu trouves le bonheur, la sécurité, l'assurance, la paix, et tu deviens un instrument toujours plus affûté, toujours plus percutant, performant pour amener les autres à l'évangile. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la passion. Ça, c'est waouh! Cette vie qui est pour chacune et chacun d'entre nous, mais que l'ennemi veut absolument par tous les moyens, par le mensonge, par l'intimidation, veut absolument t'empêcher de trouver. On va s'arrêter là, je pense. Peut-être avec un verset que je n'ai pas cité, deux que je n'ai pas cité. Galates 5, 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Libérez de quoi ? Libérez de toutes les pensées mensongères qui me polluent. Libérez de l'intimidation. Combien de fois sommes-nous attaqués, perméables à l'intimidation ? L'ennemi qui vient nous faire peur, c'est pas un hasard si la parole de Dieu est truffée de versets où Dieu dit à son peuple, n'aie pas peur, ne crains pas, ne crains pas. Et enfin, Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a éliminé, et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce n'est pas le temps de revenir à la parole de Dieu, simplement avec peut-être 2-3 versets. Regarde, quel est ton problème ? Si ton problème, c'est l'inquiétude, j'ai 15 000 pensées d'inquiétude tous les jours. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que Dieu dit ? Ne vous inquiétez de rien. Mets-le en jeu, je ne m'inquiète de rien. Je ne suis pas inquiet car tu es mon Dieu. Même si ça sonne faux, ça va sonner faux. Proclame-le. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Psaume 27, 1. De qui aurais-je crainte ? On est des fois, mais on est un peu schizophrène en tant que chrétien. Parce que le dimanche entre 10 et 12, on dit « Seigneur, tu es mon Dieu, tu es tout-puissant, tu es avec moi tous les jours. » Et à partir de 12 heures jusqu'à 10 heures le dimanche suivant, on a peur de tout et de n'importe quoi. Mais si Dieu est avec toi, tu auras peur de qui ? Je ne veux pas être schizophrène, Seigneur. Je veux m'accrocher à ta parole. Je veux m'accrocher à toi. Et je la proclame. Et plus je la proclame, plus je la vis. Je crois que vous avez bien compris ce message-là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a le temps pour un chant encore ? Ben, écoute, moi j'aimerais juste faire... sa joie est en moi d'abord. Parce que ça, c'est la mise en pratique. La joie du Seigneur est ma force. Il y a d'abondante joie dans sa présence. Il est avec moi tous les jours. Nul ne me ravira ma joie. Quand nous étions dans le désespoir avec notre fils, nous chantions ça. Et parfois, le cœur n'y était pas. Vous imaginez un peu. Mais nous le chantions parce que c'était la vérité du Seigneur. Sa joie est ma force. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et c'est ce qu'on appelle un sacrifice de louange. C'est quand ça te coûte de louer Dieu. Ça coûte, mais c'est productif. Tu sèmes une graine et finalement, quand tu t'es accroché à cela, eh bien tu vois s'accomplir ces choses. Tu les vois s'accomplir. Merci beaucoup. La joie du Seigneur est ma force. Le refrain dit « Oh, 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 oh. Sa joie est en moi, oh, 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 oh. Nul ne me la ravira, oh, 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 oh. Sa joie est en moi, oh, 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 oh. Nul ne me la ravira. » Avec les musiciens de Nashville, Tennessee, qui vont arriver incessamment sous peu. Arriba! L'avion en provenance de Nashville est... Non, voilà, il est arrivé. Faut mettre un peu de sauce, hein. J'entends rien. Plus. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans sa joie. La joie du Seigneur est ma force. Nul ne me la ravira. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans sa joie. La joie du Seigneur est ma force. Nul ne me la ravira. Oh, 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 oh. Sa joie est en moi. Oh, 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 oh. Nul ne me la ravira. Oh, 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 oh. Sa joie est en moi, oh, 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 oh. Nul ne
ne me la ravira. Hey, hey, hey. Dans la joie de la présence de celui par qui je vis, je grandis dans l'assurance de vivre libre en Jésus-Christ. Dans la joie de la présence de celui par qui je vis, je grandis dans l'assurance de vivre libre en Jésus-Christ. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Hey, hey, hey. Le bonheur et la grâce toujours m'accompagneront. Un jour je verrai la face de mon Seigneur dans sa maison. Amen. Le bonheur et la grâce, oh, oh, toujours m'accompagneront. Un jour je verrai la face de mon Seigneur dans sa maison. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Hey! Yahoo! Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me... Dernière fois. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Oh, 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 sa joie est en moi. Oh, 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 nul ne me la ravira. Amen, amen, amen. C'est peut-être pas ta réalité d'aujourd'hui, mais c'est la vérité du Seigneur pour ta vie. Et si tu t'accroches à cette vérité comme un pitbull s'accroche à son os, alors elle deviendra ta réalité. Amen. Amen. Amen, mamie. Amen. J'aimerais faire plaisir à deux, trois enfants qui sont là. Et des enfants qui aiment la préhistoire. Des enfants qui aiment la préhistoire. Et dans leur préhistoire, à eux, il y a une chanson qui s'appelle « Entre le rose et le noir ». Alors c'est la préhistoire parce que c'était bien avant leur histoire que cette chanson a été écrite. Et pourtant, ils l'ont découverte. Et ils ont fait un petit message en disant « Est-ce que Philippe pourrait chanter cette chanson juste pour nous ?» Voilà, donc avec la permission du pasteur, « Entre le rose et le noir ».
Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Venez les enfants.
lorsque le soleil pâlit, lorsque la nuit me devance, quand mon cœur retient la pluie, alors le désert avance. À quoi bon se battre? À quoi bon souffrir? À quoi bon chercher le moyen de combattre cette indifférence qui me fait vomir? Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Je connais le paradis, les sources dans le désert. J'ai vu le bonheur détruit pour avoir choisi l'enfer. Faut-il chanter l'amour ou hurler ma colère? À quoi bon se battre quand tu préfères au jour l'obscurité des ténèbres envahissant la terre? À quoi bon se battre? On veut se battre au nom du Seigneur Tout-Puissant, pour proclamer la vérité qui chasse le mensonge, proclamer la lumière qui chasse les ténèbres, pour piller l'enfer et peupler le ciel. Ça, c'est pour les adultes et pour les enfants aussi. Amen. Merci notre Père pour cette église, merci pour les aînés, mais merci pour les enfants aussi. Merci de les garder de tout mal, Seigneur. Garde-les de tout mal. Gardez des pièges du diable, des pièges du menteur, du tentateur, de l'accusateur. Seigneur, que ta vérité les conduise dans la liberté que tu leur as acquise à la croix. Merci, Père. Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour,
même si la plupart de tous les gens s'en foutent.
Entre
le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent.
Je me battrai encore, je ne parle plus fort,
sans sachant qu'un jour, quand tout aura péri, il n'y aura plus que l'amour pour vivre l'infini.
Entre le rose et le noir, lorsque le soleil pâlit,
entre l'espoir et le doute,
lorsque la nuit me devance,
je me battrai encore.
Quand mon cœur retient la pluie,
je
alors le désert avance.
Entre le rose et le noir,
je connais le paradis,
entre l'espoir et le doute,
la source dans le désert,
je me battrai encore.
J'ai vu le bonheur détruit, choisis l'enfer. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les enfants?
Merci. Réécoutez cet enseignement, il sera sur le site internet de l'Église. Donc écoutez, réécoutez cet enseignement pour qu'il puisse profondément descendre de nos têtes jusqu'à nos cœurs. Si possible, ne soyez pas tous à vous.